C'est vrai que j'ai pas mis de diapo de démarrage. Du coup, vous avez la première. Eh ben, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et très content de pouvoir passer cette année, vous rendre une petite visite. Content d'apprendre les nouvelles, vos joies, mais aussi vos sujets de prière par rapport aux difficultés et... Je voulais en particulier me réjouir avec vous de ces beaux travaux que vous avez pu réaliser. J'étais passé l'année dernière, c'était en cours de route, et je prie Dieu que ce soit un bel outil pour l'Assemblée. Et j'ai aussi compris qu'on avait un point commun, l'église rue Sonnera et l'église Grenoble-Est, où je suis pasteur là-bas, c'est que nous sommes des fans d'Astérix et Obélix. Nous ne voulons pas que le ciel nous tombe sur la tête, et donc nous faisons des travaux de toiture. Alors pour vous, c'est celle de ce beau local, et pour l'église Grenoble-Est, nous nous sommes lancés en fait dans un projet d'achat de locaux sur Grenoble. Et donc on est en ce moment embarqué dans une grande levée de fonds, et le local est super, mais il y aura des travaux de toiture à réaliser. Donc on prie pour vous, pour votre assemblée, pour ces travaux, et merci aussi pour vos prières pour la nôtre. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner les pages de votre Bible et de vous rendre avec moi dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 10. Juste vérifier que ceci marche. Super. 1 Roi chapitre 10, avec la visite de la reine de Séba. En fait, je vais lire les 13 premiers versets du chapitre 10, ensuite je vais résumer 14 à 29, et puis on va relire un petit bout du chapitre 11. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse? Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes !» Heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luths pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal, et l'on n'en a plus vu jusqu'aujourd'hui. Verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Et puis à partir du verset 14, on a la description de la richesse de Salomon. On voit qu'il a énormément d'or. Et puis si vous glissez vos yeux vers verset 21, à la toute fin, vous voyez que même l'argent ne lui plaît plus. Rien n'était en argent, on n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. Puis on a une découverte en fait de tout ce qui anime Salomon. Et lui, sa passion, c'est les chevaux. Et donc il en a énormément, montré sa grandeur. Et puis je prends à partir du chapitre 11, le verset 1, on va lire encore quelques versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elle appartenait aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous, elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines et ses femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu comme l'avait fait son père David. On peut glisser vers verset 9 les yeux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respectait pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie. » À cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Jusqu'ici notre lecture. Long de 62 mètres, d'une hauteur de 12 mètres et d'une envergure de 26 mètres, cet oiseau est l'un des fleurons de l'industrie aéronautique en France. Son fuselage si caractéristique en a fait un des transporteurs de voyageurs les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation civile mondiale. Capable de voler à plus de 2000 km/h, cet avion reliait Paris à New York en 3 heures au lieu des 8 heures actuelles. Alors je dis relié parce que cet avion, malheureusement, est aujourd'hui une pièce de musée. Est-ce que vous voyez de quel avion je suis en train de parler ? Le Concorde, c'est ça. Les vols ont cessé après 2003. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce joyau de l'industrie française, à ce fleuron des temps modernes ? L'avion supersonique aujourd'hui est cloué au sol et plusieurs raisons peuvent être évoquées, mais celle qui restera surtout dans les annales, c'est le crash du célèbre oiseau en 2000. Cette catastrophe aérienne signera la fin des vols du Concorde qui permettait la renommée de la France partout dans le monde. Potentiel énorme, mais grand gâchis. J'ai pris l'histoire du Concorde, mais je suis sûr qu'on pourrait prendre plein d'autres exemples. Des exemples qui nécessitent pour nous une prise de conscience. Tout projet est fragile. Tout projet est fragile. Ce qui pose une question, si tout projet est fragile, qu'en est-il du projet de Dieu ? Parce que, voyez, Dieu a un projet, Dieu a une mission. Il veut bénir toutes les nations de la terre. L'humanité s'est rebellée contre lui en ne voulant pas de lui dans sa vie. Et l'humanité est maintenant sous la menace d'un jugement à cause du mal qu'elle commet. Elle vit une sorte de malédiction. Mais Dieu a décidé qu'il ne laisserait jamais tomber. Dieu a décidé qu'il ne baisserait pas les bras. Pour vous, pour toi. Pour moi, Dieu qui a compassion de l'humanité a décidé de lancer une grande mission de sauvetage. Et elle commence cette mission de sauvetage avec un nomade du Proche-Orient, Abraham et son clan. Dieu appelle Abraham au travers de qui toutes les nations de la terre devraient être bénies en lui. Les bénédictions données à Abraham pour renverser les malédictions liées à la désobéissance des hommes. Donc une issue de secours existe. Un projet conséquent de sauvetage est commencé. Oui, les hommes sont en danger d'une éternelle séparation d'avec Dieu, mais Dieu qui veut leur bien éternel n'en a pas fini avec eux. Et donc plusieurs années ensuite passées, et les descendants d'Abraham se sont multipliés, et ils habitent maintenant dans un pays que Dieu leur avait promis. Donc l'histoire du projet de Dieu avance. Il y a maintenant dans ce pays un roi très important à qui Dieu a fait une promesse. Ce roi, c'est le roi David. Dieu lui promet à ce roi David que sa descendance sera affermie, que sa descendance sera un règne qui montrera la gloire de Dieu pour toujours. Ça, c'est dans le livre qui précède le livre de 1 roi de Samuel. Donc le projet de Dieu avance. Mais est-ce solide ? C'est ce qu'on aimerait savoir, je crois, tous, avant de se lancer dans un de ces fameux projets, un projet de travaux, un projet de thèse, un projet d'achat immobilier. Parce qu'on est comme ça, on bâtit nos existences sur des projets, nos projets ou les projets des autres. Les projets, on aime ça, les projets, ça donne du sens, les projets, ça donne de l'espoir. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on va, oui ou non, avoir un projet de vie, mais dans quel genre de projet de vie on va s'engager ? Quel genre de projet peut tenir la longueur ? Le Concorde s'est arrêté. Et nos projets pourraient aussi ne pas durer. Or, comment commence un roi ? Comment commence ce livre de 1 roi ? Eh bien, le livre de 1 roi commence avec le règne du fils de David, Salomon. Un roi qui est décrit comme juste, un roi qui est décrit comme droit, un roi qui est décrit comme plein de sagesse, un roi qui construit un temple merveilleux où la présence de Dieu peut être accessible. Un projet colossal qui tiendra 1000 ans. 1000 ans, imaginez-vous, en 3025. Les gens se rappellent encore de l'assemblée qui se réunissait ici, qui a fait ses travaux de toiture pour que ce local puisse rester. 1000 ans, c'est quand même énorme. À ce moment de l'histoire, ce règne, c'est une sorte d'apogée. C'est une sorte d'apogée. Regardez avec moi, en fait, on va faire en deux parties. Et la première, c'est la gloire de Salomon. Salomon, le roi qui est sage, qui est riche, qui est le meilleur. On a l'apogée ici du témoignage d'Israël avec la venue des nations, la personne de la reine de Séba ou de Saba qui fait un quiz à Salomon. La reine de Saba vient d'une région située au sud-ouest de l'Arabie, peut-être le Yémen actuel. Déjà, notez avec moi qu'elle ne se déplace pas légèrement. Il y a une grande cour qui la suit. Elle a beaucoup d'affaires à mettre dans ses valises. Ça devait être la galère pour préparer tout ce beau voyage au verset 2. Elle arrive à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Mais Salomon, lui, il a aussi beaucoup de choses pour l'impressionner. Versets 4 et 5, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions liées à lui. Vous voyez la liste qui est là pour nous faire dire il a de quoi impressionner la reine de Saba. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'elle arrive à Jérusalem. Elle arrive à Jérusalem pour probablement établir un partenariat commercial avec Salomon. Et donc, elle veut tester ce qu'elle a entendu au sujet de Salomon. Salomon, es-tu le bon partenaire pour moi ? Est-ce que tu es capable? Est-ce que ça tiendra la route si on fait du business ensemble? Et je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce genre de titre dans votre fil de lecture ou dans votre boîte mail, ces titres un peu accrocheurs là, si vous arrivez à répondre à ces 10 questions de mathématiques, vous êtes incollable, ou vous êtes un génie en littérature, vous devriez faire la Sorbonne. Ce challenge, on réalise que en fait, très peu de personnes arrivent à répondre. Et ben, c'est un peu ça ce qui se passe avec la reine de Saba et Salomon. Sauf que Salomon parvient à répondre à toutes les questions de l'université de Saba. Résultat du quiz, verset 3. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La rumeur était donc vraie. À la fin de l'examen de connaissances, une musique retentit dans le hall. Take my breath away. C'est ce qui se passe, hein, littéralement, vers fin du verset 5. Elle en eut le souffle coupé. De ses yeux, non seulement elle peut voir la richesse phénoménale de Salomon, mais en plus de ça, elle se rend compte qu'elle n'en savait que la moitié. Pince-moi, je crois rêver, non seulement ce type est un millionnaire, mais en plus il a l'intelligence de Albert Einstein, une sagesse supérieure à celle des plus grands philosophes de l'Antiquité. Et regardez, quand on vient voir ce roi, on ne repart pas les mains vides, hein, après avoir reçu des cadeaux de la reine de Saba et un bon deal concernant du bois rare. Salomon, à son tour, prend soin de son invité. Verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Que fait Salomon? Salomon est en train de bénir une reine étrangère, une reine venue de loin. Voici un roi sage, voici un roi juste, voici un roi riche et généreux. Tout ce qu'on recherche est un responsable, hélas, sous nos yeux. Au point qu'on peut dire que grâce à Salomon, Israël, le peuple de Dieu, est en bénédiction pour les nations. Peut-être vous vous rappelez de cette petite phrase condescendante, voire méprisante du publicitaire, Jacques Séguéla. Si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. Voici un homme qui a plus d'une Rolex. Voici un homme au sommet de son art. Un homme qui a tout réussi. Un homme qui n'a pas raté sa vie. Avec lui, vraiment, on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, parce que Salomon, non seulement il est sage, riche, c'est le meilleur, mais il a un truc en plus qui le distingue des autres leaders du monde. Je ne sais pas si vous avez vu verset 9. La reine de Saba déclare « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. » Oui, Salomon, c'est le roi sage et riche, mais pas pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, Salomon? Il attire l'attention sur Dieu, sur l'Éternel. On a même au petit verset 1 qu'il fait toutes ces choses à la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour sa réputation, pour sa renommée. Donc, quand le roi vit pour Dieu, quand le roi est dans le plan de Dieu, les nations qui viennent à Jérusalem sont bénies à leur tour et elles rendent gloire à Dieu. Et je crois que c'est ici qu'il faut faire une petite remarque pour ne pas être mal compris pour nous, une différence notable entre la mission dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas être mal compris, parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? On voit que la mission est centripète. Les nations viennent et voient. Et dans le Nouveau Testament, elle est principalement centrifuge. Les chrétiens vont et proclament. Dans l'Ancien Testament, les nations viennent voir ce pays, viennent voir cette nation, viennent vers Israël pour rencontrer Dieu. Le seul qui est une exception notable, c'est Jonas. Mais là, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Contrairement au Nouveau, et donc contrairement à nous, qui sommes appelés à sortir, à aller vers les nations pour vivre au milieu d'elles et leur dire l'Évangile afin qu'elles puissent rencontrer Dieu. Hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, une mission qui est quand même différente dans l'Ancien Testament de celle du Nouveau, pour pas être mal compris. Malgré cette différence qui donne quand même du relief à ce qui se passe ici, le but reste le même. Pareil pour nous, la réputation internationale de Salomon n'est pas pour lui-même, elle est pour Dieu. Au point qu'on peut dire que grâce au roi Salomon, Israël est en bénédiction pour les nations à la gloire de Dieu. Quand le roi est le médiateur de l'autorité de Dieu, quand le roi vit pour Dieu, quand le roi désire faire le projet de Dieu, tout le monde est béni. Et là, on a l'apogée de l'histoire d'Israël qui est sous nos yeux. Tout le monde est heureux, il y a la paix dans le royaume, on a un roi juste, droit, plein de sagesse, les nations qui commencent à affluer vers la descendance d'Abraham, c'est bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Et donc ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Dieu va enfin réaliser sa promesse faite à Abraham. Il va bénir toutes les nations. Avec ce roi, on pourrait vraiment se demander, mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Et pourtant, à ce moment où tout le monde est heureux, c'est glorieux, ça reste quand même fragile. Et j'arrive à mon deuxième point, la chute de Salomon. De même que l'arrêt du Concorde ne s'est pas fait en un jour, en fait, c'est le commencement en fait, d'une longue descente, d'une pente qui est décrite à partir du verset 14. Et je pense qu'on ne le voit pas tout de suite au verset 14 du chapitre 10. Alors c'est bon d'élargir un peu le contexte pour approfondir notre compréhension. Parfois c'est bon d'appeler un texte plus ancien qui explique ce qui se passe. À partir du chapitre 10, verset 14, on a des descriptions et des accents que l'auteur de Un roi met spécifiquement en avant. Ce n'est pas anodin la manière dont il en parle. Et donc accrochez-vous, en fait je fais l'appel ici à un ami, un texte qui se situe dans le Deutéronome, en Deutéronome 17, qui donc se situe entre Genèse et Un roi. Et on a une petite lecture à faire, donc accrochez-vous. Voici ce que dit Deutéronome 17. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc ils n'ont pas encore entré dans le pays. « Lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent. » Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel. Et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Pardon, excusez-moi. Et donc la fin de la citation parle du fait que le roi doit être attaché à la parole de Dieu, et que s'il les respecte, lui et ses enfants, ils pourront vivre éternellement. Donc Dieu annonce en avance, ils n'ont pas encore de pays, ils n'ont pas encore de roi, que quand ils rentreront dans le pays, ils auront un roi. Un roi qui, s'il ne s'écarte pas de la parole de Dieu, qu'il se lance à fond dans le projet de Dieu, s'il ne prend pas de chevaux en Égypte et ne devient pas excessivement riche, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, s'il fait tout ça, alors son règne sera affermi, sera éternel. Or, qu'est-ce qu'on voit dans la vie de Salomon ? Eh bien, on voit une accumulation excessive d'or et de richesses. Il y a une grande répétition, vous ne pourriez pas la louper si on avait pu le lire. On parle de l'or, on parle de choses en or, on parle de kilos d'or, on parle de choses qui sont couvertes d'or, de l'or, de l'or. On a tellement excessif qu'on a l'impression de voir Picsou qui nage dans son coffre, dans tout son or. Même pour lui, je vous l'ai dit, hein, l'argent c'est de la camelote tellement il a de l'or. Le petit hobby de Salomon, c'est les chevaux. Mais regardez d'où viennent les chevaux, au verset 28. C'est en Égypte que Salomon a acheté ses chevaux. Tiens, tiens, ça vous rappelle quelque chose ? Puis pour être certain qu'on est bien en train de voir une pente glissante, ça devient vraiment explicite au chapitre 11. Salomon ne se marie pas une fois, il ne se marie pas deux fois, il ne se marie pas trois fois, et il se marie 700 fois. J'ai entendu un... Vous en avez eu deux hier, c'est un bon démarrage. Bon. 700 fois. Donc il y a un commentateur qui a dit que seul Salomon, il a régné 40 ans. Si on fait le calcul, ça fait un mariage presque toutes les 3 semaines. Et donc vous voyez, le roi le plus sage, le plus intelligent de l'histoire antique est en train d'entamer une descente vers une pente glissante. Salomon ne reste pas fidèle à Dieu. Le monarque ignore les drapeaux rouges, ignore les avertissements. Ça devient très explicite. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. C'était celle, la parole est de Dieu, dit explicitement, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous, elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Et c'est ce qui se passe au verset 3. Les femmes détournèrent son cœur. Verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Salomon ignore les drapeaux rouges. Salomon ignore la parole de Dieu. Salomon ignore les avertissements. Et oh, ça arrive jusqu'au moment où finalement il tourne complètement son dos à Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui. C'est terrible ce qu'on voit ici. C'est le crash de la monarchie. Parce que malheureusement, ce n'est pas juste Salomon qui est concerné par ce qui se passe ici. Ce n'est pas seulement lui qui s'écarte de Dieu, mais c'est tout le peuple à sa suite. La Bible est vraiment très loin d'être naïve sur les dynamiques des relations humaines. Si les leaders ne tournent pas rond... Les gens le sentent. Et c'est une chute en cascade. Après son règne, Salomon va voir son royaume se diviser en deux. Il va y avoir des rois qui vont être même pires que lui. Et le peuple va être dans la désobéissance de plus en plus profonde, au point que le projecteur rayonnant du peuple va petit à petit devenir faible, un faible halo de lumière pour finalement s'éteindre totalement. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? De tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, je pense que on a envie de se dire pourvu qu'il y ait un autre roi un jour qui vienne. Mais avant cela, l'Ancien Testament à la fin va prendre Salomon pour un exemple pour tous les croyants individuellement. Et ça, c'est mon stagiaire, un stagiaire de l'Institut biblique de Genève, Hugo, qui m'a rapporté cette anecdote. L'anecdote d'un producteur qui voulait produire une publicité pour un parfum. L'idée, c'était d'avoir une image d'une femme assise sur un lion, dans une position lascive et suggestive. Je ne vous fais pas de dessin, parce que tout le monde voit bien ce genre de publicité. Sauf que vous n'avez jamais vu cette publicité. Et moi non plus d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais vu... le jour, parce qu'au moment où le mannequin a commencé à s'asseoir sur le lion s'est tourné vers elle et a commencé à chercher à l'attaquer. Interrogé, le producteur aurait juste dit « Je ne comprends pas, j'ai élevé moi-même ce lion, je l'ai recueilli lorsqu'il n'était qu'un petit lionceau, j'ai pris soin de lui, je l'ai nourri, et il n'a jamais fait de mal à une mouche ». Bon, cette histoire qui fait froid dans le dos, hein, elle est un terrible avertissement. Ne cajolez pas des petits lionceaux dans votre vie qui deviendront un jour des lions et pourront vous dévorer. La chute de Salomon, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Pourquoi la lumière en Israël s'est éteinte ? Pourquoi la mission a échoué ? Qu'a fait Salomon ? Une trajectoire de vie, vous le savez, une trajectoire de vie s'est faite de plusieurs décisions petites et grandes. Et petit à petit, Salomon n'a plus écouté les avertissements de la parole et s'est écarté de Dieu. Quels sont les lionceaux que nous cajolons en secret, à l'abri du regard des autres? Quels sont les lionceaux que nous croyons avoir domestiqués en nous disant « Bon, un petit écart, je n'ai pas été frappé directement par un éclair de Dieu, c'est donc que c'est ok. » La pente vers la faillite de la mission est une pente glissante. Est-ce que vous avez noté quand Salomon il a définitivement tourné son dos à Dieu? C'est là au verset 4 du chapitre 11. À l'époque de la vieillesse. Alors je regarde personne. Ne soyons pas de fous de croire que nos désobéissances n'ont pas d'impact. Le monde spirituel dans la Bible ne marche pas comme le karma. C'est pas parce qu'il n'y a pas de graves conséquences à notre faute, à notre péché, qu'il ne se passe rien. Tôt ou tard, les lionceaux deviennent des lions qui peuvent nous dévorer. Bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, mais en tout cas, l'application, c'est pas... vous voyez, il n'y a aucun responsable politique, aucun roi, aucun responsable n'est digne de confiance. On est mieux par nos propres moyens. C'est pas ça. On passerait à côté du message concernant la mission de Dieu. Parce qu'il y a un responsable. Il y a un roi. Il y a un leader qui sera toujours juste, droit et généreux. Plusieurs fois dans notre texte, l'auteur va répéter que c'est à cause de David, à cause de son Messie, à cause de son roi sauveur, Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Oui, le péché a toujours des conséquences, mais qu'est-ce qu'on apprend concernant Dieu? Que le péché pitoyable d'un roi rencontre la grâce incroyable d'un Dieu à cause de David. Tous les projets, toutes les entreprises, tous les royaumes sur cette terre sont fragiles à cause de la pente glissante que chacun d'entre nous peut prendre et que même une église tout entière pourrait prendre. Mais à la fin de cette histoire, on n'est pas appelé à désespérer, on est invité à placer notre espérance dans un autre roi, d'espérer en un autre royaume, pas dans un leader qui pourra rendre l'Amérique ou l'Europe grand encore. Pas dans des études, dans une carrière brillante ou dans une famille en or. Tous les royaumes, tous nos projets personnels que nous construisons dans ce monde vont rester fragiles. Même la bénédiction présente dans une église n'est pas garantie que les choses ne peuvent pas glisser petit à petit. Si vous avez déjà entrepris la descente, peut-être vous avez besoin d'aide pour arrêter. Ma prière, c'est que vous puissiez entendre l'avertissement et prenez le temps de réfléchir cette semaine. J'espère que ma prière, c'est que vous puissiez avoir quelqu'un de confiance avec qui vous pourrez en parler, mettre ça en lumière. Peut-être qu'il y en a même qui savent déjà qu'ils sont allés trop loin, qui sont déçus d'eux-mêmes et qui n'oseraient pas en parler par peur d'être découverte. S'il vous plaît, ne partez pas d'ici en vous disant que c'en est fini de vous. Dieu n'en a jamais fini avec nous. Il est possible de trouver du pardon, du réconfort et de l'espoir auprès de Dieu. Donc si ce message a touché une corde sensible, j'espère que vous pourrez trouver quelqu'un avec qui en parler et prier. En attendant, à cause du descendant du roi David, à cause de son Messie, à cause du royaume que Jésus a démarré. Cette mission, elle continue. Et elle continue au travers de chacun d'entre nous. Il est le roi qui restera éternellement fidèle à Dieu et qui peut donc nous bénir, bénir nos voisins, bénir toutes les nations de la terre. Je vais prier. Seigneur, ton projet est incroyable. On voit que déjà dans l'Ancien Testament, tes promesses se sont accomplies. Tu as mis en place une nation pour bénir les autres nations. C'est le projet, ton projet véritable, de renverser les malédictions, d'empêcher la séparation éternelle. Tu ne baisses pas les bras, tu cours après nous. Et dans ton amour, dans ta sagesse, tu nous avertis aussi. Tu nous avertis et tu nous préviens de faire attention. Faire attention à nos décisions. De ne pas nous justifier, de ne pas essayer d'excuser, mais vraiment de faire face et de batailler pour ne pas prendre cette pente glissante. Je prie pour ta grâce, pour chacun d'entre nous. Je prie que nous puissions rencontrer ton pardon. Je prie que nous puissions aussi retrouver de l'espoir en regardant à Jésus, lui dont le royaume est inébranlable et ne s'arrêtera jamais. C'est en lui que nous voulons nous confier, parce que c'est lui qui va, de manière ultime, bénir chacun d'entre nous et les nations de la terre. Amen.
Merci Aurélien.